Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Cédric Jubilard reste en prison. Le principal suspect dans la disparition de sa femme Delphine n'a pas convaincu les juges ce matin. Ses avocats dénoncent un simulacre de justice. Il n'y a plus de doute pour les Nations Unies. Des crimes de guerre ont bien été commis en Ukraine. L'Ukraine où les référendums d'annexion à la Russie débutent aujourd'hui dans les provinces du Donbass. Pourquoi un tel scrutin? Quel intérêt pour Poutine? On y reviendra longuement après le journal de midi et demi. Encore deux blessures de plus chez les Bleus, mais les hommes de Didier Deschamps rassurés. Hier soir, victoire 2-0 face à l'Autriche. L'affaire Pogba, elle continue. RTL a eu accès aux rapports d'enquête. Ils sont saisissants. Dans une dizaine de minutes, on vous plonge dans les méandres d'un dossier où le ballon rond s'efface devant les millions et les coups de pression.
RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour Lille où de jeunes écoliers apprennent déjà à chanter les hymnes en vue du mondial de rugby l'an prochain. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Vous êtes plutôt bolet, pleurote ou cèpe? On ira faire un tour aux champignons. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi aujourd'hui.
Bolet.
Oui, ça existe, non?
Oui, oui, non, ouais. Bien sûr. C'est une variété, sans doute, de champignons. C'est,
exactement.
Je ne connaissais pas.
Mais vous allez découvrir tout ça, Pascal. Juste avant 13h, autre découverte. Alors qu'il fera ses adieux au circuit professionnel ce soir, Monique Younes, spécialiste mode à RTL, nous dira tout du style Roger Federer. La question du jour sur RTL.fr. Équipe de France de foot, Olivier Giroud, doit-il être sélectionné pour le mondial au Qatar?
C'est une bonne question. Il le sera sans doute. Autant
Merci.
De sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute, la laïcité à l'école est-elle menacée? Des recteurs d'académie, comme celui de Dijon, ont envoyé des notes pour alerter les chefs d'établissement.
Avant ça, la météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
D'un mot, un peu de répit encore cet après-midi?
Oui, c'est pas mal, hein. Il fait encore beau dans l'Est, il fait encore beau dans le Sud. Les pluies arrivent par l'Ouest et de violentes pluies vont arriver par la barrière pyrénéenne cet après-midi et ce soir.
Merci Valérie, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Cédric Jubilard ne sortira pas de prison dans l'immédiat. Principal suspect dans l'affaire de la disparition de sa femme Delphine en décembre 2020. Il était entendu une nouvelle fois par les juges d'instruction ce matin. Malgré un faisceau d'indices, il n'y a pas de preuves, ni le corps, ni le téléphone de Delphine Jubilard n'ont été retrouvés. Alors, pour maître Jean-Baptiste Allary, le maintien en détention de son client ne fait aucun sens.
Il a répondu aux questions des juges d'instruction qui se sont finalement, tout au long de l'entretien, perdus dans des hypothèses. Parce que comme on n'a pas de... je dirais de thèses valables avec des éléments de preuve qui permettent de l'étayer, eh bien on échafaude des possibilités, des éventualités, des probabilités, des hypothèses. On va presque sortir des calculatrices pour faire des statistiques pour savoir laquelle de ces hypothèses est la plus ou la moins probable. Bon, écoutez, ça fait bientôt 2 ans que le dossier est ouvert à l'instruction et 2 ans après, on en est toujours à se poser des questions et les juges se posent des questions. Sinon, en lieu et place d'hypothèses, ce seraient des affirmations, mais on n'en a pas.
Un propos recueilli pour RTL par Valentin Larquier. 48 personnes interpellées, déjà 12 condamnations après les nombreux départs de feu qui ont rythmé l'été en France. Chiffre donné ce matin sur RTL par Marie-Laure Pézan, porte-parole de la gendarmerie, alors que 65 000 hectares ont été détruits, 65 000 hectares de forêt ces derniers mois. Et on sait que 9 départs sur 10 sont d'origine humaine.
Alors que les référendums d'annexion à la Russie débutent aujourd'hui en Ukraine dans les régions séparatistes du Donbass, les Nations Unies confirment que des crimes de guerre ont bien été commis dans le pays.
Oui, dans son rapport, l'ONU assure avoir des preuves d'exactions russes et notamment contre les populations civiles, Bénédicte Tassard.
Oui, le magistrat norvégien Erik Moos, à la tête de cette commission d'enquête, vient de terminer un premier compte-rendu oral. La commission s'est rendue dans 27 villes ukrainiennes, interviewée près de 150 victimes et visité des sites de détention et de torture. Les bombardements d'abord, ils ont bien touché les écoles, les hôpitaux, des immeubles résidentiels. Une vieille femme rencontrée témoigne, je ne vis plus, j'existe simplement, mon âme est morte. Les exécutions, nombreuses elles aussi, des victimes retrouvées poings liés dans le dos, abattues d'une balle dans la nuque ou la gorge tranchée. La torture, des Ukrainiens détenus d'abord sur place ont été transférés en Russie pour des semaines de prison avec des passages à tabac, des décharges électriques, la nudité forcée. les viols. Les victimes de violences sexuelles sont âgées de 4 à 82 ans. Des enfants, enfin, ont été enlevés, d'autres tués sans aucune retenue. De nombreux enfants ukrainiens souffrent aujourd'hui de troubles mentaux. Alors, on savait déjà tout ça, mais on parlait de soupçons de crimes de guerre. C'est aujourd'hui certifié. Il n'est plus envisageable désormais d'entendre une remise en cause de ces atrocités.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Et vous parliez, hein, Pascal, de ces référendums à l'issue quasi certaine dans les régions du Donbass. Sachez que nous y reviendrons en longueur après le journal de midi et demi. Pourquoi les organiser alors que la communauté internationale ne les reconnaît pas? Quel intérêt pour Vladimir Poutine? Toutes les réponses dans un peu plus d'une demi-heure.
RTL midi. Retour en France, la perspective d'un passage en force s'éloigne sur la réforme des retraites.
Alors qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne déjeunent ensemble tout à l'heure, le couple exécutif semble avoir entendu les voix dissonantes dans la majorité qui appelait ces voix à temporiser, William Galibert.
Ah oui, ça fait quelques jours qu'Elisabeth Borne tient le bureau des pleurs au parti chez Renaissance, à l'Assemblée. Ça défile devant elle pour dire non, on peut pas y aller comme ça. L'allié Modem pousse tellement pour enterrer l'affaire que François Bayrou en parle déjà au passé.
Je suis certain depuis le premier jour que ça ne pourra pas se faire. La préparation des réformes est nécessaire pour que les réformes aboutissent. Il a dit ça pendant toute sa campagne électorale. Et donc, je n'ai jamais cru qu'on pourrait imposer une démarche de passage en force ou à l'improviste. Jamais cru.
Chez les proches d'Emmanuel Macron, là aussi, plus personne ne veut croire qu'il prendra le risque de ce passage en force sur les retraites. Le président, cité par le journal Aujourd'hui en France, aurait éructé devant ses troupes. Vous vous démerdez, tout ce que je veux, c'est que la réforme soit adoptée d'ici fin 2023. Et c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui enfin rendra le verdict de l'exécutif lundi matin.
William Galibert du service politique de RTL.
Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran était quant à lui sur RTL ce matin.
Et il a été interpellé à propos de notre baromètre politique BVA Orange RTL, baromètre selon lequel 65% des Français estiment qu'aucun officiel français ne devrait se rendre au Qatar pour le mondial. Mais pour le porte-parole du gouvernement, il est un peu tard pour organiser un boycott.
D'abord, je rappelle que la décision, elle a été prise il y a 10 ans. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a 10 ans, les premières réactions c'était, est-ce que les footballeurs vont pouvoir faire des bons matchs dans des stades où il fait très chaud même s'ils sont climatisés. Aujourd'hui, c'est plus la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est raisonnable de climatiser des stades dans la période actuelle? Ça veut dire que les mentalités ont bougé, et je vais vous dire tant mieux. Maintenant, ce qui a été décidé il y a 10 ans, c'est compliqué à quelques semaines du début de dire tout d'un coup, en fait, il ne faut pas le faire. Ma conviction, c'est que si on devait prendre une telle décision aujourd'hui, on ne donnerait pas la Coupe du Monde au Qatar.
Olivier Véran sur RTL ce matin. Selon ce même baromètre BVA Orange RTL, 45% des Français estiment que les joueurs ne devraient pas participer à la compétition. Et à propos du Qatar, ne ratez pas le passionnant podcast Focus, signé par Marion Calais sur RTL.fr et sur toutes les plateformes. Podcast qui s'arrête sur la manière dont le Qatar est devenu un acteur incontournable du sport. Et puis le foot côté terrain, quand même, après la victoire des Bleus 2-0 hier soir face à l'Autriche. Didier Deschamps doit composer avec deux nouvelles blessures. Le défenseur Jules Koundé et le gardien Mike Maignan. Steve Mandanda a d'ailleurs été appelé pour remplacer le portier milanais. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin. Il faut en profiter cet après-midi.
Oui, c'est vrai qu'il va falloir en profiter aujourd'hui parce qu'on a encore beaucoup de soleil dans l'est et dans le sud du pays, mais déjà deux dégradations nous intéressent. Alors on a déjà quelques pluies le long des côtes de la Manche qui vont circuler comme ça tout au long de l'après-midi et puis surtout de grosses pluies orageuses qui vont passer la barrière pyrénéenne dans le courant de la soirée, se répandre vers l'Occitanie mais aussi vers la Méditerranée. Et la nuit prochaine, on pourrait avoir de sérieux orages, notamment en Occitanie et un petit peu plus tard sur les hauteurs provençales. Reste que les températures sont toujours relativement clémentes, 18 degrés à Caen cet après-midi, 20 degrés pour Paris, 21 à Strasbourg, 23 degrés à Ambérieu et à Cognac et 24 degrés à Nîmes.
Et c'est un jour particulier puisque c'est le premier jour de l'automne.
Et ça marque le retour de la pluie.
Exactement.
On est raccord. Hein.
Et bien c'est beau ça l'automne. Change. Moi j'aime bien l'automne.
Merci Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, effectivement, un jour chez vous. Chaque jour, l'info au plus près de vous. Et chaque jour, vers 12h10, nous avons rendez-vous avec nos correspondants.
Et aujourd'hui, c'est avec Franck Hanson que nous avons ce rendez-vous à Lille. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Un an de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu dans 10 stades en France et donc notamment à Lille. Des enfants vont chanter les hymnes nationaux avant chaque match. C'est l'opération La Mêlée des chœurs, et vous avez assisté aux premières répétitions, Franck.
Dans les tribunes du Stadium Nord à Villeneuve-d'Ascq, ils sont en effet déjà très enthousiastes, hein, ces écoliers et collégiens. Ils s'initient au chant choral en apprenant donc les hymnes des nations qui vont venir s'affronter à Lille. La France, bien sûr, mais aussi l'Angleterre, l'Uruguay, les îles Tonga. Alors d'abord, on se chauffe la voix.
C'est trop bien. Bah, ça fait un peu bizarre quand même. Là, on est en train d'apprendre la Marseillaise. Et les autres hymnes, on va les faire plus tard. Déjà, elle nous dit de chanter plus fort parce qu'on va être en extérieur et du coup, on va pas entendre grand-chose.
On va aller chanter sur la pelouse et après, on va regarder le match gratuitement.
C'est beaucoup d'émotion car ce sera un match mondial.
Alors ces enfants vont chanter devant les équipes et 850 millions de téléspectateurs. On classe les professeurs de musique comme Catherine Monjou du collège Simone de Beauvoir sont motivés pour ces jeunes.
Ça les sensibilise quand même pour certains effectivement à la pratique vocale de groupe mais surtout à l'événement. C'est pas chanter que pour un concert etc. Là il y a vraiment un événement sportif en plus. L'hymne national français ça va mais l'hymne de l'Uruguay ça va être costaud. On n'a pas encore les partitions des autres mais en termes de langue c'est assez complexe. Ouais.
En France, 7000 élèves vont participer au projet.
Et Franck, cette opération mélange sport et culture, c'est aussi une ouverture sur le monde.
Exactement, hein, Pascal, car il ne s'agit pas seulement de monter une chorale. La mêlée des cœurs ambitionne de faire découvrir aux enfants les pays qui vont participer à ce mondial de rugby, ce que confirme Valérie Cabuil, la rectrice de l'Académie de Lille.
C'est très formateur, c'est des moments qui soudent hein, les élèves, on le voit bien. En ce moment, dans cette période qui est très troublée mondialement, d'avoir une idée un petit peu de tous les pays qui vont jouer, où ils se situent, leur rythme, leur manière de vivre, c'est aussi l'ouverture vers le monde qui est très importante et que le sport apporte effectivement.
Et sur cette terre du Nord, Franck, qui est plutôt branché foot quand même, ouais. Le ballon ovale séduit de plus en plus.
Oui, avec 9000 licenciés dans les Hauts-de-France, une soixantaine de clubs, le monde du rugby espère bien profiter de cette Coupe du Monde 2023. D'ailleurs, les choristes sont évidemment initiés au sport. Jérémy Bénager est le directeur du site de Lille pour l'événement.
Souvent, les hymnes sont chantés par des militaires. Et nous, le but, c'était aussi d'intégrer des enfants dans un projet avec l'éducation nationale et en même temps travailler sur de la pratique sportive. Le but, c'est de faire grandir le rugby grâce à la Coupe du Monde. Ça, on va faire de l'initiation au rugby. Alors, on va être sur du rugby à 5, qui est du rugby à toucher, sans contact. Pas encore faire de plaquage, ils sont assez jeunes.
C'est un sport dynamique.
Alors, pas encore de plaquage hein, pour ces petits, mais rendez-vous dans un an sur les pelouses des stades français.
Merci beaucoup, Franck Hanson.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, les derniers rebondissements dans l'affaire Pogba. RTL a eu accès au rapport d'enquête et on va tout vous dire avec Thomas Proutot.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Il y a quelques jours, on apprenait que Paul Pogba vivait désormais sous protection policière à Turin où il joue. Et ce matin, on comprend beaucoup mieux pourquoi.
Paul Pogba sous protection judiciaire alors que son frère Mathias, aujourd'hui en détention provisoire, a publié ou fait publier sur les réseaux sociaux de nouvelles vidéos ce matin. Il y menace à nouveau Paul Pogba qui l'accuse, on le rappelle, d'extorsion de fonds. Alors l'affaire dure depuis des semaines maintenant. Et Thomas Proutot, vous avez pu, pour RTL, accéder au rapport d'enquête qui plonge dans les méandres d'un dossier, disons, difficilement accessible aux non-initiés. On va donc reprendre ça tranquillement avec vous. Les protagonistes. D'abord, il y a bien sûr Paul Pogba, son frère Mathias dont on vient de parler, mais aussi un entourage plus ou moins sulfureux.
Oui, on peut parler d'un écosystème d'anciens amis d'enfance de la cité de la Renardière à Roissy-en-Brie. Au cœur de cela, il y a 5 hommes d'une trentaine d'années qui sont restés tous proches de Paul Pogba. Jusqu'à Pogba. Début de l'année en tout cas, et qui profitent des largesses du footballeur. L'un obtient un investissement dans son resto de burger en Seine-et-Marne. D'autres ont un crédit. Il cite un chiffre de 3-4 000 euros d'achat chez Adidas, dans la boutique Adidas. C'est le sponsor de Paul Pogba. Ils peuvent y aller et prendre des vêtements et des baskets pour cette somme-là. Un autre va finir par demander jusqu'à 7 millions d'euros d'investissement dans un restaurant. Et c'est là que Paul Pogba va dire à un moment donné stop, ça suffit, il y a des difficultés qui commencent à émerger, il en a un petit peu marre qu'on lui demande comme ça de vivre justement un petit peu sur ses revenus.
Alors, on comprend qu'ils profitaient tous un peu de la situation, mais comment tout ça a viré à la prise d'otages ?
Alors ça, ça se passe le 19 mars dernier. Donc c'est quelques semaines après que Paul Pogba a signifié à l'un des membres du groupe qu'il ne voulait plus travailler avec lui, à un autre qu'il ne voulait pas investir dans son affaire, à un autre qui ne ferait plus de virement. Il passe à son quartier alors qu'il est en France. Ça a été raconté, mais on a un peu plus de détails. Il va dîner chez la mère d'un ami. Quand il redescend à minuit, il y a un d'anciens amis, qui est quelqu'un qui sort de prison, mais qu'il connaît aussi, qui l'attend et qui l'emmène dans une voiture. Il lui demande de ne pas monter avec ce chauffeur. Il y a une voiture qui l'attend, il lui demande d'éteindre son téléphone et on l'emmène dans un appartement.
Donc là, il est pris en otage.
Il est pris en otage.
Pogba en otage.
Il est en otage. Enfin, il est avec des amis, donc il dit qu'il y va. Et il se retrouve dans un appartement, il lui demande des comptes. Tu as mal parlé sur nous, tu as dit qu'on te demandait de l'argent et il faut que tu continues à nous aider. Ça, c'est la première partie. Puis, ils sortent et là arrivent deux hommes cagoulés, armés, qui le pointe, qui le vise avec cette arme, et l'homme, l'ami qui est là, lui dit « Écoute, voilà, ces gens-là t'ont protégé depuis plusieurs années sans que tu le saches. » Et il évoque un mystérieux groupe de bandits très dangereux qui voulaient s'en prendre à lui. Ces deux hommes-là l'ont protégé. Maintenant, ils réclament leur dû, le prix de leur protection. Et là, il y a le chiffre qui arrive, 13 millions d'euros. Il faut que tu nous payes 13 millions d'euros, 3 en cash, 10 par virement. Et si tu ne le fais pas, on est tous en danger, donc fais-le. Et il lui assigne un des autres amis comme référent qui doit rester avec lui. Ils partent de cet appartement de Seine-et-Marne où il a été séquestré jusqu'à l'hôtel Meurice où il a sa chambre, Paul Pogba, quand il descend en France, un hôtel très chic, des beaux quartiers parisiens. Voilà, c'est cela. Et là, il est sous surveillance et on lui demande d'aller à la banque, d'aller faire ses virements. D'aller. Alors, il ne va pas réussir, la banque va refuser. Enfin, après, il y a toute une séquence comme ça. Ils vont tout faire, ses amis, pour obtenir par tous les moyens de l'argent. Ils vont obtenir 100 000 euros en cash, des petits virements et des achats encore chez Adidas. C'est 57 000 euros d'achats en une journée. Paul Pogba vient régler la facture.
Et là, Paul Pogba n'avait pas encore prévenu la police.
Alors, Paul Pogba n'avait pas prévenu la police. Il a prévenu quand il a remis ses 100 000 euros. C'était en Angleterre, en avril. En avril 2022, il prévient le référent sécurité qui, en fait, lui conseille simplement de ne pas payer. Étrangement, la justice n'est pas alertée à ce moment-là. C'est un point intéressant de ce qu'on a découvert dans ce dossier.
Et ces hommes, cet entourage dont vous parlez, ils disent qu'ils risquent quelque chose, eux, si Paul Pogba ne paye pas. Est-ce que c'est vrai ? Ce sont des victimes, eux-mêmes ?
Alors, c'est ce qu'ils ont dit tout au long de leur garde à vue, à différents niveaux. Ils se contredisent beaucoup, ils racontent beaucoup d'histoires, mais tous disent qu'ils sont menacés par un groupe criminel. L'un dit qu'il a été blessé à la main, il l'a filmé en vidéo, ça a été établi par un rapport médical. Un autre explique qu'on l'a menacé de le découper, normalement des hommes armés. Un autre s'est fait incendier sa voiture. Il y a toute une liste comme ça de situations pour démontrer qu'ils sont eux-mêmes sous pression et que c'est pour ça qu'il faut que Paul Pogba paye. Et ça se traduit après chez Mathias Pogba qui récupère tout ça dans tout ce discours que l'on voit encore ce matin dans ses vidéos, comme quoi Pogba les a trahis, a trahi des gens, les met en danger, qui doit absolument les protéger car c'est lui finalement le criminel. Tout ça effectivement n'est pas étayé dans le rapport de police.
On termine. Évidemment, combien de personnes sont en prison aujourd'hui ?
Alors, 5 personnes ont été placées en détention provisoire. Il faut savoir que ça n'est pas l'ensemble des suspects. Il y en a un dont on sait qu'il est résident à Dubaï. Habituellement, on ne sait pas où il est. Il y a ces deux hommes cagoulés armés qui, si Paul Pogba dit vrai, mais ça n'est pas contesté par d'autres personnes côté tenues en garde à vue, eux-mêmes sont recherchés. Et éventuellement, toutes les autres personnes qui peuvent intervenir dans cette affaire assez
étonnante, sidérante
et inhabituelle. Voilà, on se croirait parfois dans un mauvais film de gangster.
Exactement. Merci à Thomas Proutot, vous êtes chef du service police-justice de RTL. C'était sidérant et passionnant de vous écouter. Dans un instant, RTL Midi, votre vie, c'est l'automne, l'heure de la cueillette des champignons. Il faut faire attention, paraît-il, lorsqu'on les cueille, on en parle tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
C'est donc l'automne, RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui ?
Pour les cèpes, par exemple, il faut qu'il ait plu 10-12 jours avant pour qu'on ait une poussée, un peu de soleil derrière. Et normalement, dans des mousses qui gardent l'humidité, on peut trouver ce qu'on cherche. En général, c'est aussi les lisières de bois parce qu'on a de la lumière qui réchauffe la terre.
C'est le retour des champignons, vous l'aurez compris, vous entendez
dans la campagne.
L'homme qui marche, on sent presque déjà le parfum.
On a envie d'être avec lui pour tout vous dire.
du bois humide. Puisque ces champignons, on peut les voir pousser dans les bois, mais il faut être prudent en les cueillant. Plus d'une soixantaine d'intoxications à cause des champignons ont été recensées depuis le 1er septembre. L'an dernier, 4 personnes sont décédées à cause de ces confusions entre espèces comestibles et espèces toxiques. Alors, pour ne pas faire d'erreur, nous sommes avec Marc-André Selos. Pardon. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, auteur de « Jamais seul » chez Actes Sud. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, on ne va pas vous mentir, on n'est pas expert avec Pascal en champignons. Est-ce qu'il faut être spécialiste pour se lancer comme ça dans la cueillette de champignons à l'automne?
Alors, non, heureusement, mais il faut être prudent. En fait, l'histoire, c'est qu'il faut bien connaître les espèces qu'on ramasse. Il faut avoir été formé et sinon, il faut être avec quelqu'un qui connaît. C'est pas dangereux si on ne tente pas l'aventure. Mais il faut absolument pas manger ce qu'on ne connaît pas. Et chaque fois qu'on veut ajouter une nouvelle espèce à la liste de celles qu'on ramasse, il faut vraiment, vraiment s'entraîner et être sûr. Et après, si on n'innove pas, c'est un vrai plaisir. Et on peut se détendre.
Quand on était enfant, on nous apprenait la manite phalloïde. C'est ce champignon rouge avec des points blancs. Je ne sais pas s'il existe toujours beaucoup dans les campagnes, mais est-ce qu'il y a une méthode particulière pour cueillir les champignons et les conserver jusqu'à la cuisson ?
Oui, alors la manite à point rouge, enfin rouge à point blanc, c'est la manite tue-mouche. Ah. Et la phalloïde, c'est celle qui tue une ou deux personnes par an en France. Et donc effectivement, de toute façon, les deux, on va se méfier. Quand on ramasse, justement, il faut bien ramasser avec la base du pied pour voir des formes, par exemple le fameux sac de la manite phalloïde, voir les formes de la base du pied qui font partie des caractères qui vont vous permettre de reconnaître votre champignon.
C'est-à-dire il y a une forme particulière qu'il faut toujours éviter. Il y a des règles aussi simples que ça?
Ah, c'est pas si simple. Ah. Non, c'est pas si simple. Mais il faut que vous soyez sûr que vous avez bien la forme que vous avez l'habitude de ramasser.
Ah oui, mais et il si y a des gens qui disent régulièrement.
Ah ben si on ne ramasse pas régulièrement, là il faut aller voir quelqu'un ou être accompagné de quelqu'un qui sache faire. Par exemple. Les pharmaciens sauront vous dire s'ils connaissent le champignon et s'il est comestible. Ils sont prudents, peut-être que des fois ils vous feront jeter des choses que vous auriez pu manger, mais voilà une ressource que l'on peut utiliser. Mais on ne peut pas innover tout seul. Et ce qui est important aussi, c'est cette idée qu'il faut bien ramasser toute la base du pied pour bien voir tout le champignon, parce qu'on dit des fois, ah oui, il faut le couper, sinon il ne repoussera pas. Ce n'est pas vrai, hein. Ça ne repousse pas comme ça les champignons. Il faut bien prendre toute la base du pied pour avoir tout l'organisme et vérifier que c'est bien la forme habituelle.
Bon, les champignons les plus simples à cueillir et à cuisiner.
Alors, bon, il y a deux espèces qui sont relativement simples à apprendre à cueillir, puisque c'est un apprentissage, hein, je veux dire, c'est comme pour conduire. Il y a la girole, qui est un champignon qui est orange doré avec des plis, pas vraiment des lamelles, pas vraiment des feuillets en dessous, mais des replis un petit peu grossiers. La girole, ça, c'est relativement facile à apprendre. Et puis, il y a le cèpe de Bordeaux, hein, qui a la caractéristique d'avoir sur un pied assez renflé, quand on regarde de près, un espèce de réseau blanc. Et ça, alors, il ne suffit pas de m'avoir écouté pour savoir les reconnaître, mais quand on a vu ce que c'était, on peut facilement avoir une espèce de vérification du critère et on met dans le panier.
Et on les trouve où, ceux-là ?
Ben, en forêt. Alors, il y a des champignons comestibles dans les prés, hein, mais il faut dire que les meilleurs, en fait, c'est les champignons qui vivent, dont les parties souterraines microscopiques vivent associées aux racines de nos arbres. La truffe fait partie de ces champignons-là, d'ailleurs. Hein. Bon, elle ne pousse pas en surface, mais les pollets, les cèpes, les lactaires, les russules, tous ces champignons-là sont des champignons qu'on trouve qu'en forêt parce qu'ils sont associés en fait aux arbres.
Et ils sont à côté de certains arbres. Je ne sais pas, j'ai plus de chances d'en trouver si je me balade au pied de chênes, de sapins. Il y a une règle ?
Non, parce que ce n'est pas les mêmes espèces et il y en a à manger partout. Je suis désolé de ne pas vous donner une recette miracle, mais dans l'extrait qu'on entendait au début, on a un peu l'impression qu'il suffit qu'il ait plu puis d'attendre 12 jours. Non, il faut qu'il ait plu et il faut attendre 12 jours.
Mais ça suffit pas.
Et on verra ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Bon, ben ce n'est pas une science exacte.
On va aller ce week-end en forêt pour la première fois. Merci Monsieur Selos. Je rappelle que vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, auteur de « Jamais seul » chez Actes Sud. C'était donc RTL Midi Votre Ville. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi. Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est notre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Jusque-là, ils pouvaient faire des contrôles partout, tout le temps, sans en indiquer le motif. Les douaniers vont devoir revoir leur méthode à cause du Conseil constitutionnel. On vous explique tout dès le début de ce journal. Début des référendums d'annexion à la Russie dans les provinces ukrainiennes du Donbass aujourd'hui. Scrutin dont l'issue semble déjà connue, que la communauté internationale ne reconnaît pas. Alors pourquoi les organiser? Que cherche Vladimir Poutine? On vous explique tout à la fin de ce journal. La contre-attaque politique de la France insoumise 10 jours après les révélations sur les violences conjugales qui visent Adrien Quatennens. La voiture électrique à 100 euros par mois. Et puis Olivier Giroud, l'attaquant si bon avec les Bleus qu'il pourrait bien contrarier les plans de Didier Deschamps pour le mondial au Qatar. Juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture. Et aujourd'hui, le style Roger Federer, décrypté par Monique Younes, il sera plus question mode que revers lifté. La question du jour sur RTL.fr, équipe de France de foot. Olivier Giroud doit-il être sélectionné pour le mondial?
Bien sûr, c'est un excellent joueur. On parlera de tous ces sujets à 13h dans les auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer. J'ajoute la phrase de Manuel Bompard, député insoumis, qui fait réagir. Il a dit « Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. » Vous nous direz ce que vous pensez de cette phrase.
La météo à la fin du journal avec vous, Valérie Quintin. Un après-midi...
C'est pas mal.
Pas mal.
On s'en sort encore assez bien. Alors, ok, il y a de la pluie à l'ouest, le long des côtes de la Manche, et puis il y a de grosses pluies orageuses qui vont passer la barrière pyrénéenne ce soir. Mais avant cela, on va quand même profiter d'un petit peu de soleil.
Merci Valérie.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est une décision inattendue qui va pousser les douaniers à revoir leur méthode. Le Conseil constitutionnel vient de rendre inconstitutionnel un article essentiel, Arnaud Touche, celui qui permet aux douaniers aujourd'hui de faire des contrôles partout sur le territoire et de retenir une personne lors d'un contrôle.
Oui, il s'agit de l'article 60 du Code des douanes. C'est pourtant un article fondateur qui date du 8 décembre 1948 qui dit qu'en vue de la recherche de la fraude, eh bien, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. Eh bien, Maître Eugène Bangoura, l'avocat qui a saisi le Conseil constitutionnel, reproche aux agents des douanes de procéder en toutes circonstances mais sans contrôle effectif de l'autorité judiciaire à des contrôles partout sur le territoire mais sans en justifier le motif. Il juge que cela est contraire aux libertés individuelles et à la liberté d'aller et de venir par exemple. Et le Conseil eh bien, lui a donné raison. Les douaniers peuvent effectivement contrôler toute personne sans en exprimer le motif à la différence des policiers ou des gendarmes. Cependant, les douaniers vont pouvoir continuer à contrôler comme aujourd'hui au moins jusqu'au 1er septembre 2023, date à laquelle l'article sera rendu effectivement inconstitutionnel. Entre-temps, eh bien, le Code des douanes devra certainement changer pour préciser les contours des futurs contrôles douaniers.
Arnaud Touche pour RTL, merci.
10 jours après les premières révélations sur l'affaire Quatennens, la France insoumise cherche la meilleure riposte.
Alors que le député du Nord a reconnu des violences conjugales, son collègue insoumis, Manuel Bompard, a déclaré vouloir faire la part des choses ce matin sur CNews.
Une gifle n'est pas égale. Je ne minimise pas les faits dont il est accusé. D'ailleurs, lui-même, je crois, les a reconnus. Donc non, je ne les minimise pas. Après, j'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable. Mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent.
Tollé chez les féministes, Marlène Schiappa a interpellé le député sur les réseaux sociaux évoquant des propos qui font un tort considérable au combat pour la protection des femmes face aux violences. Alors c'est vrai que cette phrase peut paraître maladroite, Marie-Bénédicte Allaire, mais en réalité, elle s'inscrit complètement dans la stratégie de contre-offensive politique des insoumis.
Oui, Manuel Bompard a raté son effet. Il se prend une volée de bois vert, mais sa contre-attaque, en réalité, c'est l'allusion très claire à Damien Abad, qui, malgré des témoignages contre lui, est resté un mois ministre des Solidarités. Deux poids, deux mesures, argumente à son tour Nathalie Auziol, députée de l'Hérault.
On a en 5 jours réagi, en 5 jours. On aurait attendu vraiment beaucoup plus, par exemple, des gouvernements qui, dans ses propres rangs, n'a jamais répondu. Et aucun média n'a été aussi attentif à ce qu'eux allaient faire pour régler des problèmes de violence qui sont autrement plus importants et gravissimes dans leur rang.
Sur les réseaux sociaux et les médias, les piliers de la France insoumise martèlent aussi que la majorité utilise l'affaire Quatennens pour faire oublier sa réforme des retraites impopulaire. Carlos Bilongo, député du Val d'Oise.
C'est une attaque politique. La violence faite aux femmes, elle est même plus au cœur du sujet. On nous parle de 49-3 pour la réforme des retraites. Il est là le sujet aujourd'hui. Et à chaque fois, on vient dévier le débat aujourd'hui. On vient dévier le débat.
Renvoyer la faute sur l'adversaire, une technique éprouvée pour se sortir d'un mauvais pas.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
RTL Midi.
Les référendums d'annexion à la Russie débutent aujourd'hui en Ukraine et cette question, la panique, est-elle en train de gagner la population russe?
Depuis l'allocution télévisée de Vladimir Poutine, certains habitants qui refusent de rentrer dans l'armée cherchent à quitter le pays coûte que coûte. Et même si dans la rue, les gens font comme si de rien n'était, c'est bien une forme de panique qui gagne la population. Vincent Derosier a pu joindre Olga qui vit à Saint-Pétersbourg.
Il y a énormément de gens autour de moi qui se demandent comment partir ou alors qui partent précipitamment. Vraiment, les gens qui n'avaient aucun envie de partir parce qu'on se dit toujours qu'on doit rester ici pour essayer de faire quelque chose depuis notre État et non depuis l'étranger. Et là, maintenant, ces gens-là sont totalement perdus. Ils sont obligés de quitter leur famille, leur boulot, leurs enfants, d'essayer de trouver par tous les moyens de l'argent pour s'acheter des billets. Les prix ont augmenté 6 fois durant ces dernières 24 heures, chez des amis ou dans les écoles. C'est de la panique, oui.
Olga, habitante de Saint-Pétersbourg, joint pour RTL par Vincent Derosier. Et on reviendra sur les référendums d'annexion à la Russie qui débutent aujourd'hui dans le Donbass. À la fin de ce journal, on vous expliquera pourquoi Vladimir Poutine a choisi de les organiser, même si la communauté internationale ne les reconnaît pas.
Toujours à l'étranger, c'est le visage qui incarnera certainement l'Italie à partir de la semaine prochaine. La candidate d'extrême droite, Giorgia Meloni, est la grande favorite des législatives de dimanche.
Et sa probable victoire inquiète déjà beaucoup dans le reste de l'Europe. Recul des droits civiques, politique migratoire plus stricte. Olivier Bonnel, alors que l'Italie avait fait beaucoup pour dédiaboliser son image, le pays se voit aujourd'hui rattrapé par son passé.
La campagne électorale avait commencé par une vidéo enregistrée en plusieurs langues par Giorgia Meloni pour réfuter le passé fasciste dont le parti Fratelli d'Italia est l'un des héritiers.
Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire, en condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les lois anti-juives.
Mais derrière cette opération séduction, celle qui est pressentie pour diriger l'Italie est encore rattrapée par certains personnages sulfureux, membres de Fratelli d'Italia. Il y a 2 jours, un responsable à Milan a été filmé, bras tendu, effectuant un salut fasciste. Mardi dernier, c'est un candidat sicilien à la Chambre des députés qui a été suspendu de ses fonctions après avoir fait l'éloge d'Adolf Hitler. Si Giorgia Meloni est aux portes du pouvoir en Italie, elle devra faire encore le ménage chez certains de ses soutiens, souffle-t-on jusque dans son entourage.
Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie.
C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, rendre plus accessible la voiture électrique.
Et c'est donc l'un des points du budget 2023 qui sera présenté lundi à l'Assemblée nationale. La possibilité d'obtenir en leasing, comme on dit Christophe Bourou, de louer donc plus clairement pour 100 euros par mois une voiture électrique.
Oui, concrètement, l'État va prendre en charge une partie de ce loyer mensuel, de cette location longue durée hein, qui vous engage sur plusieurs années, ce qu'on appelle le leasing, de sorte que l'automobiliste ne paie plus que 100 euros par mois. Pourront en bénéficier les jeunes, les professions socio-médicales et les personnes à faible revenu. On attend les détails pour déterminer les plafonds de ressources. Ensuite, une fois le dossier accepté, vous aurez le choix du modèle. À ce tarif, les voitures proposées seront principalement des citadines comme les Renault Twingo, les Peugeot i208 ou les Dacia Spring. Vous pourrez passer commande directement, soit en concession ou via votre banque qui propose déjà ses formules de leasing. À noter que l'entretien du véhicule sera inclus. Reste maintenant à l'État financer ce dispositif. On parle d'un budget de 50 millions d'euros pour 100 000 véhicules par an dans un premier temps, avec ce bémol quand même de la part des syndicats. Le bémol de la production, puisque la plupart des citadines concernées et subventionnées ne sont plus fabriquées en France. La Slovénie pour la Twingo, par exemple, la Slovaquie pour la 208 électrique ou encore la Chine pour la Dacia Spring.
Ça, c'est une information très importante quand même que vous donnez. De pouvoir rouler dans une voiture électrique pour 100 euros par mois en fonction des revenus, si j'ai bien compris, des étudiants. Il faut avoir des revenus faibles. Mais beaucoup de gens vont être très intéressés par ça, parce que 100 euros, c'est pas cher pour le coup.
Oui, alors attention, parce qu'il y a déjà des leasing aujourd'hui qui sont à 150 euros. On s'en rapproche, mais déjà, ça devient effectivement très intéressant de rouler à 100 euros.
C'est une voiture qui coûte combien ?
Ah, c'est des voitures qui sont à 30 000 euros, 9, 20, donc voilà. Donc c'est quand même très
rouler intéressant. Pour 100 euros par mois, une voiture qui coûte d'habitude 30 000 euros, ça me paraît une information très importante et qui va intéresser nos auditeurs, je le pense.
Merci Christophe Bourreau, spécialiste auto pour RTL.
Le foot à présent, encore 2 blessures chez les Bleus.
Cette fois, c'est le gardien Mike Maignan, touché au mollet hier soir lors de la victoire 2-0 face à l'Autriche, qui est forfait. Steve Mandanda a été appelé pour le remplacer. Blessure également de Jules Koundé, contrariété de plus donc pour Didier Deschamps, confronté Français. Un autre dilemme, la forme insolente cette fois de son attaquant Olivier Giroud, appelé pour pallier l'absence de Benzema, mais souvent absent des derniers rassemblements. Giroud, à qui de nombreux observateurs promettaient de ne pas aller au Qatar, mais qui à 35 ans a encore marqué hier soir. L'attaquant milanais a bien l'intention de tout faire pour disputer le Mondial, et ça en toute humilité. Il s'est confié en exclusivité au micro RTL de Philippe Sanfourche.
C'était un match important pour nous, mais aussi pour moi. Et c'est le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Donc c'est un soulagement parce que quelque part aussi, je sais que j'étais attendu. J'ai répondu présent et c'est tant mieux pour l'équipe et pour moi.
Olivier Giroud, il y a deux jours, vous nous aviez dit j'ai pas reparlé depuis le mois de mars avec Didier Deschamps. Vous sentez que la situation, elle évolue avec le sélectionneur ?
On s'est parlé avant-hier. Je lui ai simplement dit c'était pas à moi d'être dans une position de demandeur. Peu importe le rôle que j'aurai dans cette équipe, je serai à 200% derrière l'équipe. Voilà, sans aucun état d'âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne, si je puis dire, parce que c'est le collectif qui prime, c'est tout.
Olivier Giroud avec Philippe Sanfourche pour RTL. Les Bleus qui affronteront le Danemark dimanche soir en Ligue des Nations. La météo, on vous retrouve comme promis, Valérie Quintin. Bon, vous nous le dites depuis tout à l'heure, c'est pas mal,
oui.
Faut être optimiste.
Voilà, enfin juste pour aujourd'hui, parce qu'on a quand même de bonnes pluies qui arrivent.
Vous savez toujours nous refroidir, hein, Valérie.
À la fois il en faut, tout va bien. On a quelques pluies le long des côtes de la Manche et de grosses pluies orageuses surtout qui vont passer la barrière pyrénéenne cet après-midi, ce soir et la nuit prochaine, qui vont aussi glisser vers la Méditerranée. Et c'est précisément ces pluies qui vont vraiment tomber de rue la nuit prochaine sur les hauteurs languedociennes. On y reviendra, mais il faudra quand même être assez prudent en Occitanie la nuit prochaine. Ailleurs, donc encore un petit peu de soleil et des températures plutôt douces. 18 degrés à Lille cet après-midi, 20 degrés à Paris, 21 à Mulhouse, 23 à Grenoble et 25 degrés pour Ajaccio.
Merci Valérie.
Des référendums dans le Donbass, mais pourquoi ? Quel intérêt pour Poutine ? On vous explique tout ça dans un instant. Julien Foutra du service étranger est déjà là.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Praud et Céline Landreau.
C'est aujourd'hui que démarrent les référendums en Ukraine, dans les régions contrôlées par les Russes. La population est appelée à se prononcer sur l'annexion et le rattachement à Moscou.
Des référendums qui ne sont pas reconnus, on le rappelle, par la communauté internationale. Et pour en parler avec nous, on accueille Julien Fautra du service étranger d'RTL. Bonjour Julien.
Bonjour.
Julien, vous êtes allé il y a quelques semaines en reportage dans ces territoires du Donbass où le scrutin a donc commencé ce matin. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'on connaît déjà l'issue de ce vote ?
Il y a effectivement assez peu de doutes. Vladimir Poutine, dans son allocution il y a deux jours, parle d'ailleurs des territoires qui vont rejoindre la Russie, s'embarrasse pas du conditionnel. Donc le oui l'emportera. D'autant que, un, la majorité des gens qui auraient pu voter contre ce rattachement à la Russie ont fui les bombardements pour se réfugier en Europe. Deux, les listes électorales sont complètement manipulables en pleine guerre. Les autorités pourront faire voter des gens plusieurs fois ou faire participer au scrutin des personnes qui ne sont pas sur les listes. En Crimée, en 2014, le référendum d'adhésion à la Russie avait été approuvé à hauteur de 96,77%. C'est beaucoup. On imagine que ce sera à peu près les mêmes ordres de grandeur dans les quatre territoires concernés aujourd'hui.
Et c'est pour ça que la communauté internationale ne reconnaît pas ces référendums.
Absolument, c'est ça. Déjà parce qu'on ne sait pas qui les organise. Ce sont des pseudo-administrations locales reconnues par personne. Pour la communauté internationale, ce sont des territoires souverains ukrainiens. Ensuite, parce que le droit international est bafoué à tous les étages, pour organiser un référendum démocratique, il ne suffit pas de dire « il y a un référendum ». Il y a des normes extrêmement précises. On parle de territoires envahis, agressés militairement. Le droit international est clair. Toute action politique sur ces territoires est considérée comme illégale. La Cour de justice internationale a d'ailleurs demandé à Vladimir Poutine d'y renoncer. On parle aussi de territoires dont on ne connaît pas exactement les contours, les frontières. Le front évolue de jour en jour sur le terrain et le référendum, en fait, il concerne quelles frontières ? Moi, je suis incapable de vous répondre aujourd'hui. Autre chose, il n'y aura pas d'observateurs internationaux, indépendants. Pour un référendum, il faut une campagne électorale libre, des médias libres, une liberté d'expression, etc. Enfin, je dirais presque surtout la façon dont ça va se passer. Pour voter, ce sont des gens qui viendront frapper à votre porte. Allez-y monsieur, allez-y madame, mettez un bulletin dans l'urne. On appelle ça pudiquement des urnes mobiles. Imaginez ce que ça peut avoir de pression sur le votant qui reçoit les urnes, l'urne chez lui. Des bureaux seront ouverts, mais seulement le dernier jour du scrutin, le mardi 27 septembre. Comment on peut aller voter sous les bombes ? À Kherson, par exemple, il y a encore des affrontements, des tirs d'artillerie. Est-ce que les gens iront voter sous ces tirs d'artillerie ? Je ne suis pas certain.
Alors pourquoi c'est si important pour Moscou d'organiser ces référendums et pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant ? Parce que l'armée russe est en déroute, Vladimir Poutine accélère le calendrier. Pourquoi ? Après la débâcle dans la région de Kharkiv, la Russie préparait ses référendums. C'est a priori documenté et on imagine que c'était autour du 4 novembre. Mais c'était prévu pour plus tard. Le risque qu'évoquent les diplomates français aujourd'hui, c'est le risque d'escalade. D'autant que Vladimir Poutine tient bien à préciser dans son allocution qu'il ne bluffe pas. Un diplomate nous disait les choses de la façon suivante. Un dictateur ne peut pas perdre une guerre, sinon il est mort.
Est-ce que ça peut permettre à Vladimir Poutine de légitimer ou de faire passer certaines décisions ?
Ces référendums, Pascal, sont une façon dans la tête de Vladimir Poutine de sanctuariser ces quatre territoires. C'est d'ailleurs l'une des craintes qu'évoque depuis quelques jours la diplomatie française. Si Kherson devient russe et qu'un canon César, donc un canon livré par la France à l'armée ukrainienne, tape Kherson, quel est le risque se demande aujourd'hui la diplomatie française. Mais en fait, c'est bien ça l'enjeu. Ces territoires seront considérés comme russes par Vladimir Poutine. Est-ce que la guerre montera encore d'un cran quand les Ukrainiens tenteront de les récupérer? C'est du moins la menace que la Russie s'applique à créer, cette peur que Vladimir Poutine entend diffuser dans l'esprit des Ukrainiens et de leur soutien, les pays occidentaux.
Merci beaucoup, Julien Fautra, pour ce décryptage de ce vote si particulier qui débute aujourd'hui dans les territoires du Donbass en Ukraine. Merci.
Dans une seconde, Roger Federer et Monique Younes. Et là, l'élégance, évidemment, sur le terrain, mais l'élégance aussi à la ville, l'élégance dans le style, l'élégance
partout,
dans les vêtements.
Et l'élégance de Monique.
L'élégance. Eh bien, on en parle avec Monique.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
Et la culture, donc, qui se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui,
Roger Federer.
Et oui, Roger Federer. Car
magnifique.
À la fois culture et sport aujourd'hui avec vous, Monique Younes, rebonjour.
Rebonjour.
Federer qui disputera ce soir son dernier match pro à Londres pour la Laver Cup. Un match en double avec Rafael Nadal. Federer, incarnation de la classe dans le monde du tennis et pas seulement. Mais avant d'être sacré en 2019 par GQ, l'homme le plus stylé de la décennie, on va dire qu'il y a des périodes où il s'est un peu plus cherché, Roger Federer. Mais
c'est vrai, parce qu'il a aussi assez d'humour pour poster sur les réseaux sociaux des photos de jeunesse qui le montrent boutonneux, cheveux décolorés, un nez énorme. Vous savez qu'il a eu une période blonde, il a voulu se teindre en roux, mais il s'est ravisé pour se laisser pousser les cheveux et les attacher en queue de cheval de longueur variable, vous vous souvenez ?
Bien sûr, c'est l'errance des années 90, la coupe mulet.
Mais oui, et ces années-là, Federer se cherche aussi au niveau vestimentaire. Il porte des vêtements larges, informes, en ville pareil, comme sur les cours. En fait, il imite son idole, Michael Jordan, le basketteur américain, le maître du style buggy, des pantalons et des chemises qui ressemblent plus à des sacs qu'autre chose. Et comme si cette nonchalance se laissait aller, influencer son caractère. Le Federer des années 90, début 2000, se fait remarquer par son mauvais caractère sur les cours. Raquette brisée, grosse colère. Il m'en a d'ailleurs parlé quand je l'ai interrogé. C'était en mai 2019.
Moi, à l'époque, je me suis battu avec mes démons. J'adore quand les parents viennent vers moi et me disent « Ah, tu m'as beaucoup aidé avec mon gamin » parce qu'il a aussi passé des moments un peu difficiles où il te voit à la télé aujourd'hui, il te voit tellement serein et calme et on sait que tu n'étais pas toujours comme ça, alors merci pour ça. Ça me touche beaucoup, mais j'essaie pas à chaque instant, à chaque moment d'être toujours exemplaire.
Alors quoi qu'il en dise, son exemplarité commence en 2009. C'est d'une date clé dans la vie de Federer. Il a 28 ans, Roger gagne son premier grand chelem, devient numéro 1 mondial et une icône pour tous les fans de la raquette. Alors là, adieu l'ado impossible, bonjour l'homme, le vrai, l'irrésistible, il devient Magic Roger.
Et il se fait couper les cheveux comme Samson.
Mais oui, parce que Pascal, la métamorphose est à la fois capillaire et vestimentaire. Eh oui. Sur le terrain, son sponsor Nike lui fournit des polos cintrés qui mettent en valeur son corps de danseur tout en lui offrant une grande aisance dans les mouvements. Les tissus les plus fins possibles pour le minimum de transpiration. Il porte des couleurs classieuses, bleu, blanc, gris, vert, bordeaux. Le détail discret, il y a un liseré le long des manches, sur le col, des fines rayures, rehaussant la boutonnière. Roger devient le beau Brummel des cours. Vous savez, il redonne au parti de tennis cette touche d'élégance qu'elle avait dans les années 30. Et le plus extraordinaire, c'est que son style tennistique colle à cette nouvelle stratégie vestimentaire et commerciale. On a l'impression qu'il joue sans faire d'effort, que tous les coups lui viennent naturellement parce qu'il a la classe. Il est bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans ses vêtements. Je lui avais aussi demandé s'il préférait le règlement vestimentaire de Roland-Garros ou celui de Wimbledon.
Je pense que les deux sont assez similaires en fait, parce que Paris, la ville de la mode, les marques avec leurs tenues, ils aiment bien marquer un peu l'occasion à Paris, mais aussi forcément à Wimbledon, parce qu'à Wimbledon, on n'a pas beaucoup de possibilités de vraiment changer beaucoup avec le blanc. Et peut-être après, tu peux ajouter 5% de couleur quelque part. C'est très, très délicat à Wimbledon, mais ça nous permet en fait de rester tout en blanc. Et je pense que c'est assez élégant.
On sent qu'il aime la mode, hein, Federer, oui, sur les cours et en ville.
Oui, alors une de ses grandes amies, vous savez, c'est Anna Wintour, l'incontournable rédactrice en chef du magazine Vogue. C'est la grande prêtresse de la mode. Il fait sa connaissance en 2009 et elle le conseille sur ses tenues. Et ce qui frappe chez Federer, vous savez, c'est qu'il n'y a pas d'excentricité, aucune. La seule fois où il a porté à Wimbledon des baskets blanches à la semelle orange, on lui a vite demandé de les enlever parce que c'était trop voyant, trop flashy. C'était en 2013 et depuis, tout est luxe, confort et volupté. Mais oui, jusqu'au bout des ongles, on le voit boutonner sa veste cintrée en sortant d'une limousine, jouer de la guitare avec ses raquettes, avec un pull col V jeté sur les épaules. Il lui arrive même, comme hier soir, de jouer au ping-pong en smoking. Et ce soir, il enfilera, comme à son habitude, deux paires de chaussettes dans ses baskets. C'est son petit secret pour obtenir plus de confort.
Et on imagine qu'il sera peut-être dans la mode. Vous avez 10 secondes.
Il a un pied là-dedans. Vous savez, il possède déjà sa marque RF, qu'il cogère désormais avec Uniqlo. Et comme c'est un grand collectionneur de baskets, il en possède 250 paires, il a investi, il y a 2 ans, beaucoup d'argent dans la marque suisse On
Running. 10 secondes.
Alors, quoi qu'il en fasse, vous savez, il est très à peu près certain que Roger Federer arrivera à Federer une clientèle comme il a Federer son public.
Tie break, c'est fini.
Ben voilà.
Mais c'était bien.
Merci.
C'était bien, merci.
On se retrouve sur les podiums du coup, Monique, avec Roger, bientôt.
Ben, il va être chez Dior bientôt.
12h58, merci, et puis Monique. Là, effectivement, je pense à tous les Roger, il a redonné un peu de lisibilité à ce prénom avec Roger. 12h58, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Praud,
RTL Midi jusqu'à 13h.